Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis vieux, que je perds mes cheveux.
Donc tout d'abord, quelles sont les études que vous avez faites et est-ce qu'on peut se tutoyer ?
Oui.
Donc quelles sont les études que tu as faites et en quoi elles t'ont servi pour ce que tu fais maintenant ?
Alors j'ai fait des études de cinéma. Okay. J'étais à la fac de cinéma à Montpellier. C'est ce qu'on appelle études cinématographiques.
Ouais.
Donc c'est pas une école technique. Hein. C'est une école où on réfléchit, ça reste la fac. Mmh. On m'a pas appris à me servir d'une caméra, j'ai pas eu de cours de montage.
Okay. Okay.
C'est pas les beaux-arts hein, pour le coup. C'est pas les beaux-arts du cinéma, c'est vraiment c'est beaucoup plus théorique.
Okay.
Intéressant, hein, philosophique, à plein d'endroits, et à des moments, manque un peu la cristallisation, quoi, quand même. Mais j'ai adoré ça, je suis jusqu'à la maîtrise. Je ne l'ai pas validé, j'ai eu les UV maîtrise, comme on dit, c'est-à-dire que ce qu'on appelle niveau maîtrise. Mais ensuite, au moment de valider le truc, ben, j'ai la première grosse tournée Dionysos qui est partie. Et en fait, ça m'a servi parce que j'ai quand même commencé un mémoire de maîtrise sur Jim Jarmusch, okay, qui reste un de mes cinéastes préférés toujours, encore et aujourd'hui. Et je crois que en fait, ça m'a nourri parce que le fait d'avoir très peu d'heures de cours, on avait des places pour aller au cinéma pas cher. Donc il y avait le cinéma Diagonal, donc j'allais 3-4 fois au cinéma par semaine. J'avais le temps de lire, il n'y avait pas internet à l'époque. Donc je lis encore beaucoup, mais effectivement, comme tout le monde, il m'arrive de regarder des trucs sur internet. Et donc c'était beaucoup lecture, compo, disques, concerts, cinéma. Et donc déjà d'être dans cette atmosphère-là d'échange avec d'autres élèves, d'autres étudiants, pardon, les profs. Et j'ai même un souvenir génial qui a été très marquant. C'était en maîtrise ou en licence peut-être, en licence, sur un cours sur le cinéma expérimental. Enfin, sur l'histoire du cinéma, nous parle du cinéma expérimental et notamment de femmes au Maghreb qui étaient complètement interdites de créer et qui avaient fait des films en fait de contrebande un peu, sans dire à leur mari ou à leur père ou en tout cas à cette espèce d'influence patriarcale violente et empêchante. Ils ont fait des films avec deux bouts de ficelle, etc. Et c'est quasiment les premières à avoir gratté la bande, à avoir coloré pour avoir un film rouge avec de la peinture dessus. Enfin, truc de punk un peu de cinéma dans les années 20, quoi.
Ouais, ouais.
Vraiment. Le jour du partiel, le sujet était pour danser, il faut être infirme. Et il fallait faire évidemment la trans. Parce qu'il devait raconter plein d'autres choses.
Ouais.
Et en fait, il fallait parler, en fait, si tu réfléchissais, il fallait parler de ça. C'est-à-dire qu'elles avaient été dans une infirmité de création parce qu'elles avaient été très empêchées et qu'il fallait montrer comment parfois, bien sûr, sans glorifier le fait d'être empêché, mais que quand on n'a pas le choix et qu'on est empêché, plutôt que de se victimiser, essayer de trouver une solution pouvait être exactement passionnant. Et ça avait été un moment incroyable parce que, bon, il était très théâtral, le gars. Il rendait les copies de la moins bonne note à la meilleure. Et en fait, il y a un gars qui avait mis ouais, ça n'a rien à voir avec le cours. Moi, je ne suis pas là pour réfléchir à vos délires. Et il a dit vous avez zéro. Vous ne voulez pas réfléchir. Vous êtes jeune. Vous ne voulez pas réfléchir. Vous êtes mûr pour une société fasciste. Et il a rendu la copie comme ça. Donc, ça envoyait quoi. C'était rock. Donc, j'ai adoré ce truc-là. Ça m'avait secoué, mais c'est bien d'être secoué.
Est-ce que tu as commencé à écrire des chansons ou des histoires en premier, du coup ?
Des histoires en premier, des nouvelles. Et justement, pendant la période de la fac.
Okay.
Vraiment, j'ai commencé... un peu avant. Un peu avant, parce que le groupe Dionysos, c'est la première année de fac. Donc j'ai déjà des chansons. Donc je viens de me tromper. Donc j'avais commencé un petit peu des petites nouvelles. Vraiment, première, terminale, quoi. Mais je commençais à essayer d'apprendre des accords, je créais des nouvelles, je m'achetais des bobines super vite pour faire des trucs et bricoler. Et après, avec le groupe, du coup, j'ai commencé à faire des chansons. Puis rapidement, des chansons sont devenues des nouvelles. Puis des nouvelles que j'écrivais sont devenues des chansons. Et puis des petits courts-métrages super vite qui sont devenus des clips. Et on n'avait rien, on n'avait pas un téléphone, un machin. Donc, c'est vraiment caméra Super 8. Caméscope, c'était l'image vidéo, je la détestais. Donc, maintenant, elle peut avoir un côté cool vintage. Parce qu'on se dit, ah, c'est Caméscope, c'est marrant, c'est 80, 90, c'est cool. En fait, moi, pour moi, c'était moche. Moi, j'aimais le Cinoche, quoi. Je voulais la péloche. Donc, même une petite péloche de Super 8. Donc, je faisais tout en Super 8. Et je numérisais sur les bandes montage de la fac. Et j'ai fait six clips de Dionysos, comme ça, tout en Super 8, qu'on vendait sur une VHS à la fin des concerts, parce qu'on l'avait numérisé. Évidemment, tu peux pas donner une bande de Super 8 comme ça. Mais j'ai commencé par les histoires, puis les chansons. Ça a été le bleu de la flamme, ça a toujours été quand même de raconter un truc, quoi. Jamais été un musicien qui cherche à mettre des mots.
Oui, c'est un peu le bon sens quand même.
C'est, bah, y a pas de règle, hein, y en a qui font ça comme ça et c'est très bien. Mais moi, c'est par rapport, vu que c'est à moi que tu poses la question, moi non. C'est une envie de. C'est pour ça que j'ai fini par faire des livres et des films. Et c'est pas parce que la chanson ne me suffit pas. C'est parce que le plaisir de raconter des histoires dans une chanson a au contraire boosté mon désir.
Est-ce que ça a été dur de sortir de la musique pour faire des films, des livres, etc.?
Là, il faut se lever et secouer un peu. Ouais.
Ça n'a pas été dur, ça a été joyeux. Tout est dur. Tout est dur, mais c'est pas. Je suis jamais sorti de la musique. Pour moi, c'est la continuation du geste. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je vous disais en répondant à votre précédente question. C'est-à-dire que, en fait, le fait de vouloir. Pour moi, c'est les chansons, c'est des petits courts-métrages, en fait. Avec une histoire, un personnage, même si le personnage n'est qu'une humeur. Et les arrangements, alors bien sûr, il y a la mélodie, il y a le rythme, mais l'atmosphère, c'était déjà des petits scores de cinéma. J'aimais déjà cette dimension-là. Donc pour moi, en fait, il y a eu une espèce de logique. C'était pas si intellectualisé. Des fois, on croit, ah oui, il fait des. Il fait. Ben, en fait, il y a le cerveau réfléchit, mais c'est le désir, c'est quelque chose d'assez. En fait, joueur, avant tout, plus qu'intellectualisant. Il y a de l'intellect dedans. Mais le bleu de la flamme, il est sur l'envie d'essayer des trucs, quoi.
Et tu avais le désir pour le faire.
Ah oui, et toujours.
Parfait. Donc, tu es un artiste pluridisciplinaire. Comment tu fais pour garder la même énergie dans tout ce que tu fais et est-ce que c'est des processus différents? Est-ce que c'est des techniques de travail différentes?
Oui, mais c'est le même esprit. C'est-à-dire que c'est comme si je passais du ukulélé à la guitare. Ou là, d'un concert comédie musicale avec une tête de chat à Dionysos, où là, il n'y a pas de quatrième mur et je parle avec les gens. C'est pas la même chose. C'est pas la même technique par rapport à ta question. Mais par contre, c'est le même état d'esprit qui m'anime. D'exploration joyeuse, de jeu, de jouer avec ses émotions, avec des choses qui nous sont arrivées. En fait, c'est le. Je crois que ce qui relie les trois, c'est le sérieux. Mais le sérieux, c'est très particulier. C'est surtout pas se prendre au sérieux. En fait, ce n'est pas sérieux de se prendre au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est très sérieux d'essayer de faire de son mieux. Mais se prendre au sérieux, c'est ridicule.
Oui, je suis d'accord.
Et en fait, il y a un sérieux. Ce qui est pas, et c'est pas parce que je suis sérieux que je fais pas d'erreur. Pareil, viser la perfection, ce n'est pas sérieux. Essayer de faire son mieux, c'est très sérieux. C'est pas la même chose. Sinon, on aspire à une espèce de pureté, ça amène qu'à des trucs totalitaires, hein, que ce soit en art ou en idéologie. La pureté, c'est jamais très bon. Même de la viser. On peut viser quelque chose de précis. Quelque chose qu'on veut vraiment. Et souvent, en chemin, on change. D'ailleurs, quand on crée. Ou alors, c'est qu'on est contrôle fric total, et au bout d'un moment, cette raideur fait que ça casse quelque part. Donc, précision, oui. Pureté, perfection, tout ça, surtout pas. Et donc, tout ce qui lie tout ça, pour moi, c'est sérieux. Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Contrairement à ce que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré souvent, des gens qui se prennent très au sérieux, et qui ne sont pas si sérieux que ça. Mais je dis ça, c'est pas parce que je le dis que moi c'est bon. C'est-à-dire que c'est un travail de tous les jours. Il y a tous les jours, on est un peu plus agacé par un truc, donc on va se mettre à se prendre un peu au sérieux parce que, ah ouais, mais toi, Ah, mais moi j'ai fait ça alors que. Et hop, on redevient con. Donc c'est un jardinage de tous les jours, avec soi-même, avec les autres et avec sa propre création. Donc c'est pas parce que moi je dis ouais, faut faire les choses sérieusement et pas se prendre au sérieux que c'est bon, que c'est gagné. C'est pas parce que je l'ai dit que c'est ok. Hein. C'est tous les jours. Et forcément, ça doit se rééquilibrer, ça doit s'ajuster. Et c'est ça qui est sérieux, c'est d'essayer de s'ajuster, même s'il y a des moments, bah, je vais me prendre trop au sérieux sur un truc. C'est pas grave. Ça devient grave si ça devient un système. Et qu'il y a une autocomplaisance de ça. Oui, mais moi, je suis le chanteur de machin, je suis... Alors, connerie.
Et du coup, dans ta pratique, est-ce que t'en as une que tu préfères ?
Non. En fait, c'est pour ça que je les fais toutes. Ouais. S'il y avait une hiérarchie, en fait, je choisirais ce que je préfère. Et ce que je préfère, c'est faire tout. C'est pas très français. En français, bon, je suis parlant du centenaire de Boris Vian, j'ai encore chanté dans son appartement hier, mais c'était un peu fou, c'était assez génial. En duo avec son fantôme, incroyable. Ouais, c'était incroyable. Mais c'est pas très français. Français, quand on multiplie, c'est suspect. C'est oula, oui, donc c'est pas très sérieux. Du coup. Alors que moi, je suis pas en train de dire il faut faire tout, il faut faire comme moi, faut faire mélanger. Pas du tout. Il y en a, ils font leur album, ils refont leur album exactement pareil sur scène. Moi, j'aime pas ça. Mais ils le font très bien. C'est pas moi qui ai raison sur eux. Il n'y a pas de règle. Moi, ce qui me va bien, c'est de faire ces connexions-là. C'est d'écrire la musique d'un livre qui peut-être sera un film, mais finalement ce ne sera pas un film, mais hop, ça me fait un score comme un thème du personnage. Finalement, ça va être le riff d'une chanson. Et en fait, de m'amuser avec cette matière. M'amuser, faut pas... Voilà, s'amuser. Enfin, jouer.
Pas se prendre au sérieux.
Non, mais sérieux. Mais le faire à fond. Comme, en fait, c'est comme un jeu. Comme par exemple, tu vas jouer au ping-pong avec quelqu'un. Tu joues au ping-pong. Si, le mec, il t'envoie la balle, et toi, dès que... mais bing, bing, t'envoies la balle n'importe où, parce que tu te prends pas au sérieux, que t'es trop cool, t'en fous de gagner. Bah, tu vas t'ennuyer, et lui aussi. Si tu joues vraiment. Mais si, par contre, si tu perds, tu essaies de tricher, ou t'es désagréable, qu'est-ce que t'es... T'es chiant aussi, en fait. Juste, faut essayer de gagner, puis si tu perds, tu rigoles. C'est pareil, en fait. C'est la même chose, on les connaît tous, même aux cartes, ou à machin... Tu fais le mec, non, mais non, point, moi j'étais pas prêt. Bon, alors ça peut arriver sur un moment de nerf, mais le mec il est comme ça tout le long du match, il te saoule. Mmh. Et celui par contre que tu domines, qui fait moi je m'en fous, de toute façon, je m'en fous du jeu, moi je m'en fous de gagner.
À quoi bon ?
Ben alors, viens pas me faire chier en fait. C'est le même qui sur scène, va monter sur scène, il va faire, tu sais, genre on avait vu ça en première partie. On joue qu'une demi-heure, hein, vous inquiétez pas, bientôt Dionysos. Je dis, ben viens pas alors. Pourquoi tu t'excuses? Tu viens, t'as monté ton matos, t'as fait des bornes, t'as machin. Là, il y a des gens qui sont là pour t'écouter. Moi, je fais ça, je vois une première partie, je vois ça, d'un concert, je vais au bar direct. Je dis, non, ça veut pas dire qu'il faut arriver, hey, je suis le roi du monde, bande d'enculés. Tu vois, mais tu peux, il faut t'affirmer. C'est comme si tu vois. Il y a une phrase géniale d'une philosophe qui s'appelle Catherine David qui dit. Ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand. Elle est pas mal, hein? Sur ces espèces de trucs de fausse humilité. Je vais jouer qu'une demi-heure, oui. Soyez gentil, soyez indulgent, on n'a pas fait beaucoup de concerts, hein? Chiant! Ouais. Chiant! Ouais. Vous voyez, vous en connaissez?
Non, mais oui.
Ça, c'est de la prétention déguisée. C'est aussi prétentieux que de faire. Moi, je vais tous éclater la gueule. En fait, c'est la même chose de dire. Moi, je suis qu'en deuxième année, donc pardon, excusez-moi. Oh là là. Pff. Non, perte de temps, ça.
Merci. Ouais, vas-y. T'oublie pas. Du coup, les trois sujets qui reviennent le plus dans ton travail, oui. Et pourquoi ces trois sujets en particulier ?
Je dirais... l'amour, la mort... Et la joie.
Très large.
L'amour, parce que c'est... et quand je parle d'amour, je parle de toutes les formes d'amour. Hein, amoureux, filial, camaraderie avec ses animaux. Donc il y a ça bah, c'est le lien possible de tout ce qui fait qu'on traverse une vie d'humain, quoi. Donc c'est d'une folle banalité ce que je dis, mais le fait est que c'est comme si tu faisais un gâteau et au beurre, tu vas pas avoir forcément tout le temps le goût du beurre selon comment tu le doses, mais si tu mets pas de beurre, truc qui s'effrite, quoi. Bah, la vie, ouais, j'ai besoin de ce lien d'amour. Jouer ce soir sur scène, que je sois bon, pas bon, que ça plaise, que ça plaise pas, c'est de l'amour. Sinon, ça sert à rien. Et pas de l'amour que de soi, de l'amour des autres, de l'amour de soi aussi. C'est du partage, exactement. Donc ça, c'est partout. La mort, parce que... la mort, c'est notre enjeu. C'est notre enjeu, c'est-à-dire que c'est ce qui nous rend bien vivants. C'est un dosage, encore une fois, si on pense à la mort toute la journée et qu'on s'habille en croque-mort, gothique, et qu'on est tout le temps désespéré, on passe à côté de la vie. Mais si on se croit un complètement immortel, il n'y a plus d'enjeu. Et c'est comme une bonne histoire, quoi. Pourquoi on aime le suspense ? Parce qu'on fait, oulala, s'il n'a pas réussi ça avant tel truc, donc... Il y a notre attention qui claque, qui augmente comme ça. La mort nous sert à ça. C'est-à-dire qu'on est tous, on va tous y passer. Après, chacun ses croyances sur l'au-delà, les machins. Pas de problème, chacun croit ce qu'il veut. Mais le fait est que là, il y a une partie à jouer, amusante, des fois avec de la cruauté, où on est là maintenant. Et on a quand même quelqu'un qui nous fait. Alors, on peut s'en effrayer terriblement, ou être dans le déni, ou se dire, ok, mais pendant, j'ai encore un peu envie de me marrer 2-3 coups. Et les 2-3 coups sera peut-être 300 coups. Et peut-être que demain, on n'est plus là, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est, y a rien de pulsion. Quand je dis il y a la mort dans mes 3 sujets préférés, il y a zéro pulsion de mort. C'est parce que la pulsion de vie est très forte que la question de la mort est importante. En plus, j'ai perdu ma mère assez jeune. J'ai eu une maladie qui m'a fait 11 semaines de chambre stérile, changé de groupe sanguin et grève de moelle osseuse, machin. Donc j'ai vu un peu de près la chose. Donc c'est important. Et la joie, parce que c'est beaucoup plus important la joie que le bonheur.
C'est quoi la différence ?
Alors la joie est une émotion, le bonheur est un état. Le bonheur est une moyenne. Le bonheur, tu peux l'avoir parce que, par exemple, demain, tu vas prendre un ticket de loto et tu vas gagner. Quel bonheur, c'est cadeau. Ou quelqu'un, un amoureux, un papa, une maman, peu importe, une copine, va te faire un cadeau. On va dire, tiens, demain, je t'amène. Oh, hop, hop. T'as un état de bonheur. Et dans ce bonheur, tu as la joie. Mais c'est parce que tu as eu la bonne nouvelle que tu as cet état de bonheur. Alors que la joie ne dépend pas de ce qui se passe bien ou mal. La joie est une émotion que tu peux aller chercher en toi, même quand c'est le bordel, même quand ça va pas. C'est-à-dire que si, mauvaise nouvelle, je suis triste. Bonne nouvelle, je suis heureux. En fait, tu es comme, tu sais, un gars en ski nautique qui, au lieu d'être bien redressé comme ça, serait comme ça, tu vois, et qui va avoir mal au dos tout le temps. Hop. Alors que la joie, moi j'ai été joyeux à l'hôpital, pas parce que j'étais fou, pas genre ah dans le... attention, le risque encore c'est des dosages, hein. Le risque de tout ça, tu vas jusqu'au déni. Moi je dis pas faut être joyeux quand ça va pas, faut être joyeux, tout va bien, non ça c'est du déni. C'est ok, il y a une lucidité, un rapport au réel. Je dis bon ça me plaît pas, ça c'est dur, ça c'est chiant, mais qu'est-ce que je fais avec ce jeu? Tu vois, comme si tu avais un jeu d'échecs ou je sais pas quoi. Ah putain, moi j'aimerais bien avoir ma tour et moi. Tu t'es fait bouffer ta tour et ton roi. Tu n'as plus que des pions. Tu vas sûrement avoir la mort qui va te faire perdre. Mais comment tu joues la partie avec les pions qui restent? Et comment tu peux aller trouver de la joie en jouant ta partie avec tes deux pions? Et qui te dit que finalement, avec tes deux pions, tu vas pas bouffer le truc et récupérer notre pièce, hein? Il y a des surprises comme ça. Ne serait-ce que moi, à mon humble échelle, j'étais condamné il y a 10 ans. Puis on a trouvé le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans, qui était compatible avec moi et qui m'ont sauvé la vie. Donc, bon. Et sans aller jusque-là, tous les jours, on a des trucs comme ça. Tous les jours, on est déçu par un truc. C'est pas grave. Même en art, l'accident, c'est une des meilleures sources d'inspiration. Mais c'est pas l'accident l'important. C'est ce qu'on va faire de l'accident. Si, je vais vous donner un exemple avec une des premières chansons de Dionysos, qui est la première sur le premier album et qui est passée un peu en radio. On travaille une chanson et on voulait mettre une pédale wah-wah. Vous voyez ce que c'est, pédale wah-wah ? C'est une pédale comme ça, on branche sur une guitare, on fait comme ça, ça fait un... On a fait comme ça, un peu comme Jimi Hendrix.
Okay. Bon.
Sur un morceau, on voulait faire un truc un peu bruitiste. Et guitariste qui est avec moi, là, Mike, il a mis à l'envers. Et sur 99 guitares sur 100, bah, ça fait pas de son. Ça fait juste rien, tu fais « Ah merde, j'ai mis à l'envers !» Tu la remets, ça fait... Et là, quand il la branche, ça fait... Non, putain, mais trop marrant. Et lui, il prend son potentiomètre de volume, il fait... Donc ça fait une attaque. Et après, il fait ça, et avec son truc, il fait... Il change la tonalité. Et il fait ce petit riff. Je l'enregistre avec un dictaphone à cassette. Mini cassette. Comme ça. D'années 90. Et... La semaine d'après, je trouve un riff qui va dans la tonalité de ce truc et j'écris une chanson. Cette chanson, si elle n'avait pas été là, le groupe a pas du tout va bifurque vers un peut-être un truc encore mieux, hein, mais en tout cas, on ne suit pas le même chemin. Donc le truc génial, c'est pas le fait que la wawa fasse oui, c'est ce qu'on en a fait. C'est pour ça que c'est important de traquer l'accident, le truc qui déconne.
Toujours être attentif à, même si c'est des erreurs, ça peut
devenir... Oui, ah, toujours.
Parce qu'on peut
c'est ce que tu après. Peux en faire après. Parce que l'erreur en elle-même...
C'est quoi une erreur, finalement ?
Bah, oui, et puis en plus, c'est subjectif.
C'est un nouveau,
en tout cas, peut-être qu'au lieu d'appeler ça un erreur ou un accident, un imprévu. Voilà. C'est le principe de l'aventure. La différence, tu pars en voyage. Entre des vacances et une aventure, vacances, tu vas voir tout bien réglé, tu vas aller à telle heure voir telle expo, tel machin, ou telle pierre, machin, ou tel ou le belvédère de je sais pas quoi. Hop, et tu vas suivre, tu vas regarder, tu vas avoir ta perche à selfie. C'est pas méprisant ce que je dis. Hein.
Non.
C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, et puis on a le droit de partir en vacances aussi. Alors juste envie d'être. C'est autre chose.
C'est pas la même expérience.
C'est pas la même expérience. Mais par contre, quand tu commences à sortir, comme on dit, des sentiers battus. Mais par contre, tu risques de te perdre. Tu risques d'arfois, tu risques de... Mais c'est là que l'aventure. Et pour moi, l'artiste doit passer par là. Il y a un poème d'un poète qui s'appelle Robert Frost, qui dit ça très bien, ça s'appelle « The Road Not To Taken ». Et en fait, en gros, c'est un personnage qui arrive devant deux routes. Il y a une forêt et une route. Et il dit l'artiste, en gros, c'est celui qui passe par la forêt... quitte à se perdre, même si c'est plus long, parce que ça fait toute la différence, parce que sur le chemin, il va apprendre quelque chose, même de ses erreurs et de sa perdition possible. Et il y a Nietzsche qui disait sur ça, truc qui boucle bien ça, la joie, justement, est plus dans l'élan que dans la victoire.
Oh.
Donc ça dit tout ça, tout ce qu'on s'est dit là.
Comment on parle de sujets qui nous touchent personnellement, surtout, enfin, nous on est en plein dedans aussi. Et est-ce que tu trouves que c'est épuisant de travailler sur des événements difficiles de ta vie, du coup ?
Oui, c'est épuisant, mais c'est expurgent aussi. C'est une confrontation. Encore une fois, il n'y a pas de système. C'est-à-dire que moi, je vais pas dire, vous avez eu un deuil, vous avez eu une séparation, un truc. Travailler dessus. Non. Mais si vous avez envie de travailler dessus, que c'est pas du masochisme, si ça devient du masochisme, c'est que vous faites fausse route. Il y a cette espèce de truc de l'artiste poète maudit qui doit souffrir. En fait, c'est la même connerie que celui qui dit non, mais moi je préfère être que dans la fiction et dans la légèreté, parce que c'est pareil que tout à l'heure, en fait. Ça dépend. Peut-être que vous allez faire d'un truc dur quelque chose de marrant. Peut-être d'un truc dur, vous n'aurez pas envie, mais par contre, sans que vous vous en rendiez compte, ça va infuser sur une autre chose. Peut-être que ce n'est pas le moment et que ça reviendra dans 10 ans. Donc, il ne faut pas se dire sur... Il ne faut, faut pas traiter ce sujet où il faut... Il m'a rayé ça, il faut que je traite. Ou moi, je suis ça, machin. Il ne faut pas s'assigner à résidence. C'est le principe du racisme. Hein. L'assignation à résidence. Qu'il soit de tout genre, hein. Ah bah lui, elle est là, elle c'est là, lui pense ça, lui il a telle orientation sexuelle, donc lui c'est ça, ça c'est ça. Non, jamais, jamais. Et la liberté de l'art, c'est justement de se désassigner. Parce que quand on se cherche, le problème souvent c'est qu'on vous dit, ah il faut que vous vous trouviez, hein. Faut que vous trouviez, quelle connerie ce truc aussi de se trouver, nous sommes tout le temps en mouvement, donc c'est déjà faux. C'est déjà faux, d'emblée faux. C'est comme si une mélodie qui commence avec un la, tu dis, ah oui, il faut chanter en la. Hein. Mais oui, après sur le refrain, c'est en do. Ah oui, mais il fallait chanter en la. C'est la même connerie. Le moi est seulement la somme, la moyenne de vous en mouvement. Donc vous devez vous ajuster tout le temps. Donc ne vous assignez pas à résidence. Moi, je suis l'artiste comme ça. Moi, je suis ça. Vous en savez rien. Et en plus, c'est chiant, ça va rigidifier la chose. Ouvrez-vous. Et quand ça ne vous plaît pas, faites un pas de côté. Ah ben non, là, je suis allé là-dedans. Mais souvent, aller dans le truc qui apparemment n'est pas pour nous, c'est souvent intéressant. C'est la même chose que la forêt.
Oui.
C'est la même chose. Et plein de fois, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas en train de vous donner une espèce de méthode. Vous allez voir, vous allez aller dans la forêt, vous allez faire un truc. D'habitude, vous n'aimez pas du tout le rap, vous allez faire du rap et tout d'un coup, ça va être génial. Pas du tout. Dis juste, en fait, restez dans une forme de disponibilité. Mm-hmm. Et après, vous referez, vous allez prendre votre matière et vous allez le faire, votre tri. Mais si vous triez en amont, vous vous empêchez tout un tas d'expériences possibles. Et ça, bah moi, je pense que ce soit qu'on soit artiste ou pas, on est de toute façon artiste de sa vie. Je le pense pour tout, exactement. Alors, je suis très mal passé pour parler là-dessus parce que je mange comme un enfant de 5 ans et que j'ai des phobies. Donc voilà, on est jamais. Mais on a tous des contradictions. Et les contradictions, c'est pas grave non plus. Ah bah toi, t'as des contradictions. Tu dis ça, mais t'es ça. Bah non, bah c'est très bien. C'est beaucoup plus sain d'avoir des contradictions que d'être dans la certitude. Je vais encore citer Nietzsche. Nietzsche, il dit. C'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Parce que le doute, c'est en mouvement. Donc des fois, ça fait mal. Hein. La certitude, c'est le plaisir immédiat. Ah ben moi, je suis comme ça. Mais c'est ça. Là, on se l'applique à soi-même. Mais quand on l'applique aux autres, c'est comme ça qu'on commence à être raciste. On peut parler de couleur de peau, de machin, truc. Mais même avec quelqu'un qui est pareil, machin. Ouais, mais toi, t'es comme ça, toi. Toi, t'es le chanteur de rock... ça doit y aller un peu la défonce, non? Connerie, j'ai entendu. Non, jamais touché à la drogue. Je dis pas ça pour faire le petit idéal. J'ai plein d'autres défauts. Mais en tout cas, vous voyez ces conneries là. Et ça, c'est toxique. C'est Boris Vian qui disait ça très bien. Il disait les gens qui n'ont pas d'imagination en veulent souvent énormément et le font payer à ceux qui en ont. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de retrouver la trace de ma donneuse de moelle osseuse. Que j'avais écrit le nom de code dans un livre et elle a lu le livre en Allemagne et elle a reconnu son code.
Dingue.
Un peu dingue. Et là, j'ai voulu aller la rejoindre en vélo électrique. 800 km, Paris-Düsseldorf. Mais c'était marrant. Vélo électrique, tu vois. Ben, je parle de livres, dans le livre, des experts en mal de cul. C'est-à-dire que moi, je leur dis, j'ai été sauvé la vie par cette femme et elle m'a retrouvé, c'est dingue, je vais y aller en vélo. Alors, t'avais plein... qui m'ont dit « Waouh, mais incroyable !» Mais j'ai eu « T'en fais souvent du vélo ?» Je fais « Bah oui, j'en fais un peu. » Oui, non, mais je veux dire, rester plusieurs heures sur un vélo.
Oh là là.
Oui, tu vas avoir mal au cul, hein. Je dis tout de suite. Alors, et après, là où c'est intéressant, c'est que c'est con, mais c'est vrai. Donc, si moi j'ai fait « Bah vous, les experts en marre de cul, allez vous faire foutre », et ben au bout de 3 jours, j'aurais effectivement eu mal au cul. Donc, grâce à eux, j'ai fait, ils me cassent les couilles, ils ne vont pas m'empêcher de m'enlever mon désir. Mais par contre, je suis allé voir un magasin de vélo. Je leur ai dit, voilà, je vais faire ça. Je n'ai pas trop l'habitude. Donc, Il m'a dit, il faut prendre une bonne selle et un bon cycliste rembourré, ça a passé. Et du coup, ça a passé. Alors que le vrai bon conseil, ça aurait été l'encouragement. Waouh, cool. Par contre,
attention.
Ouais. Va chez un cycliste, prends un bon truc, ne lésine pas sur les moyens d'avoir une bonne selle et un bon cycliste rembourré, parce que sinon, tu auras mal au cul. Alors que, attends, j'ai fait... Ah, tu auras mal au cul. Hein. Et donc, je les ai appelés, j'ai fait un chapitre qui s'appelle « Les experts en mal de cul ».
Tout à l'heure, tu as parlé d'un cinéaste, mais est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'inspirent et avec qui tu aimerais travailler ou avec qui tu aimerais travailler plus tard ?
On a plein des qui m'ont inspiré déjà et qui continuent de le faire, qu'ils soient vivants ou morts. Il y en a plein en musique. Ça va de Tom Waits à Björk. Par exemple, aujourd'hui, une nana comme Rosalia, je suis complètement. Je suis impressionné, quoi. Elle fait un truc hyper moderne, électro, machin. Alors, moi, j'aimais bien, mais bon, c'est moins mon truc. Là, elle débarque avec un album symphonique, elle chante en 13 langues. La nana, je pense qu'elle a, je sais pas, un peu plus de votre âge, quoi, mais pas beaucoup plus. Et j'adore prendre des claques comme ça par des beaucoup plus jeunes que moi, mais aussi par des beaucoup plus vieux. Des gens qui sont plus là depuis... Il n'y a pas... On parlait de racisme un peu tout à l'heure. Je crois que le racisme, tous les racismes sont une forme de paresse et de bêtise. Mais le plus con, c'est l'agisme. Eh, vieux con. Avec un peu de chance, tu deviendras vieux toi aussi. Le noir ne deviendra pas blanc. Le blanc ne deviendra pas asiatique. Mais par contre, on va tous devenir vieux. Ou alors, on va mourir avant. Donc, tu vois, il y a ce truc-là. Mais en tout cas, je la trouve géniale. Ça va de, c'est pas aller de Charlie Chaplin à PJ Harvey, en passant par Jack London, Jack Kerouac, plein de Jack. Ça peut passer en cinéma à Emir Kusturica.
Quand t'as une idée, du coup, comment tu sais avec quelle discipline tu vas l'exprimer ? Parce que t'as dit que tu passais des photos,
j'ai fait aussi un peu des photos.
Ben voilà, mais aux musiques, aux nouvelles et tout, quand t'as quelque chose qui te vient en tête, pourquoi tu vas
pourquoi
en faire une musique ? Genre, pourquoi le premier truc qui va sortir, c'est ça
c'est
et pas
chemin.
Autre chose ?
Je me dis pas tout de suite, alors, ça c'est une chanson, en fait c'est une matière,
ouais.
C'est un terreau, et après je fais pousser des trucs dessus, et des fois ça pousse pas, des fois ça pousse de travers... Des fois ça pousse de travers, mais ça me plaît que ça pousse de travers. Donc il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de. Après, je peux avoir une idée de chanson.
Ouais.
Je ferais bien une chanson là-dessus. Ça peut arriver. Ou une idée de roman. Et des fois, ça change. Mais souvent, j'ai des idées avant d'avoir des idées de roman et de chanson. Et c'est après, en fait, que je les canalise. Et que je les fais passer. C'est comme si vous aviez des négatifs. Vous avez fait votre shooting.
Ouais.
Vous avez fait votre shooting. Et tout d'un coup, hop, il y a plusieurs. Vous êtes en salle de développement et on vous propose plusieurs chimies. Au lieu de dire, bon, là, c'est noir et blanc. Là, tu vas faire le truc normal. Là, si tu fais ça, tu vas avoir un truc hyper bleu. Et là, tu fais, ah ouais, attends. Et de toute façon, c'est une idée, donc tu peux la tremper dans le bleu. Finalement, ça te plaît pas. Bah, tu te trompes dans le rouge. Plutôt, putain, si je mélangeais les deux. Oh, ça m'a pété à la gueule, mais ça fait un oui. C'est toujours la même chose.
On passe un peu sur Jack et la mécanique du cœur, mais comment t'as réagi au succès que ça a eu ? Parce que c'est un peu le truc le plus connu en général.
Est-ce que tu t'y attendais ?
Non, on peut pas s'attendre. Et c'est pas de la fausse modestie, justement, c'est pas de pas si petit, tu n'es pas si grand. C'est que... j'étais hyper content de faire mon premier livre. J'ai un deuxième. Et là, il y a les choses qui se sont enchaînées. C'est-à-dire qu'on a fait l'album à l'époque, j'étais avec Olivia Ruiz aussi. Et elle a chanté avec moi, j'étais en train de faire son disque. Et puis, hop, on a joué au Grand Journal, Luc Besson. L'histoire lui plaît, il veut faire le film. Donc, hop, ça fait des articles sur le livre. Et puis, nous, on est en tournée. Puis, machin, il y a La Femme Chocolat qui sort. Olivia Ruiz qui a cartonné, une chanson que j'ai composée. J'ai réalisé le disque. Enfin, il y a des moments, les planètes s'alignent. Voilà. Et j'ai eu de la chance. Et c'est pas encore une fois une façon de minimiser. Pourquoi j'ai eu de la chance ? Parce que j'ai fait un terreau en amont qui a permis cette chance. C'est comme sur un match de foot, le mec, il a tiré au but et il fait poteau rentrant. Peut-être que j'ai fait poteau rentrant, mais si j'avais pas tiré. J'ai fait, ah oui, mais non, moi je vais faire pas ça, l'autre. Ah non, non, j'ai pas mal, les gens, il fait froid. Bah, en fait, il se serait rien passé. Mais par contre, j'ai, comme on dit, j'ai pris ma chance. Mm-hmm. Et des fois, on prend sa chance, on fait tout bien. Et la balle, elle tape sur le poteau, elle revient. Et ça marche pas.
Mais il faut toujours y croire.
Il faut toujours y croire. Et surtout, la grande difficulté dans ce moment-là, c'est quand ça marche. De pas faire. Yeah, I am the king of the world. Parce que ça n'a qu'un temps, parce que nous sommes en mouvement tout le temps. Et nous, et le temps continue d'avancer. Et à l'inverse, quand la balle tape sur le poteau, et que même parfois, elle était rentrée et que l'arbitre fait « Non, non, elle n'est pas rentrée. » Injustice. Dur, hein. Mm. N'est pas comme à virer complot, quoi. Ouais, mais en fait, salaud, nul, c'est à cause de... Alors que des fois, c'est vrai. Des fois, les gens vont être injustes. Et c'est là qu'il faut avoir le plus de hauteur. Si tu penses ton à tomber dans ta victimologie,
oui.
Même si tu as raison, surtout si tu as raison, tu finis par aller dans la boue avec celui qui t'a fait ça. Alors attention, je suis pas en train de dire il faut être maître tibétain, on te crache à la gueule. Non, la colère est une émotion, est un système d'alarme très précieux. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas se mettre en colère. Je dis juste, encore une fois, qu'il ne faut pas en faire un système. Si on devient systématiquement en colère, alors on se victimise, et alors on fait, on ne sait pas si petit, grand, on retombe dans ces mécanismes-là. Et ce n'est pas parce que je vous dis ça que je suis à l'abri. Ça m'arrive de me victimiser, ça m'arrive d'être redondant sur une colère. Ça m'arrivait tout à l'heure au wagon-restaurant. Wagon-restaurant, en fait, il y a quelqu'un devant moi. Donc, je prends un appel. Je vois le téléphone. Je prends l'appel parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de commander avant moi. Je prends l'appel. Et le mec derrière moi, il me touche comme ça. Il me fait « Oh, c'est bon ?» Ça m'énerve. Je fais « Non, mais je fais, monsieur, ça va ?» Il y a quelqu'un là devant. Et il me fait « Ouais, mais c'est pas poli de parler au téléphone alors que moi j'attends. » Je fais, monsieur, il y a quelqu'un devant. Donc au début, et il insiste. Il me fait, ah, c'est bon. Tu sais, il est un peu... Je dis, putain, mais c'est un vrai connard, lui. Et en fait, donc, je laisse tomber, je raccroche mon appel, je fais ma commande. Et en fait, le gars de devant me coupe la parole, machin truc. Et en fait, ce que je n'avais pas vu, c'est que le gars avait grillé la queue devant, que moi, quand j'ai pris mon appel, je ne l'ai pas vu. Je n'avais pas vu avant qu'il avait grillé la queue. Ce qui fait que l'autre, il était agacé parce que l'autre avait pris la queue avant et que moi, en plus, je le faisais attendre alors qu'il s'était déjà fait griller. Il n'était pas bien malin. Il a exagéré. Mais si j'étais resté juste, le mec qui me touche, là, vas-y. Ben, en fait, alors je lui ai fait, je viens de comprendre. Je suis OK. Je fais du coup, vous prenez quoi ? Non, mais je veux pas. Je fais non, mais j'ai pas fait ça pour ça. C'est pas la question. Pas fait ça pour ça. Juste, moi là, j'ai un peu mal réagi parce que vous m'avez gonflé. J'aime pas trop qu'on me touche. Mais en fait, je n'avais pas vu contexte qu'effectivement ce type-là, vous avez grillé la place, que du coup, en plus, vous aviez un gars qui téléphonait. Alors que moi, pourquoi j'ai accepté l'appel ? Parce que je croyais qu'il y avait un gars avant moi. Contexte.
Avoir le point de vue de l'autre.
Et à des fois, on n'y arrive pas. Peut-être qu'un autre jour, un peu plus fatigué, un peu plus énervé, je lui aurais juste envoyé chier. Et des fois, il faut.
Oui.
Mais des fois, il faut. Des fois, il faut. Des fois, il faut. Mais quand on voit... Et là, j'ai senti que je fais... Ah, ouais, merde. Tu peux avoir la malhonnêteté à l'intérieur. Oui, ben, t'avais qu'à pas me toucher. Tu vois, tu peux rester comme ça. Mais quand tu le sens, quand tu sais qu'il y a...
Un petit...
Tu le vois, alors il faut y aller. Il faut faire... OK. Bon.
Être honnête et...
Ouais. Et en plus, ça rend plus heureux.
Oui.
Ça rend beaucoup plus heureux, en fait.
Toujours par rapport à Jack et la mécanique du cœur, on voulait savoir dans quel ordre l'œuvre s'est faite par rapport à l'histoire, la musique, le film, etc.
Bah, comme je vous ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a commencé par l'idée.
Okay.
C'est-à-dire que je voulais raconter l'histoire d'un personnage différent. J'avais envie de rapport à la différence, mais je voulais pas faire un noir, un bleu ou un jaune. Je voulais que ça soit plus imagé que ça. Et après, il y avait cette idée de passion amoureuse au milieu. Et je me suis dit, ah, il y a un rapport avec le temps. Parce que le temps change quand on tombe amoureux très fort. Mmh. L'impression que tout passe vite. Et puis à un moment donné, le réel vous fait, hé, t'as pris de l'avance là. Et il te remet, il rééquilibre. Tu peux pas tricher avec le temps. Tu peux avoir la sensation que tu vas trop vite ou que tu t'ennuies à des moments, mais le temps, lui, il est rectiligne. Et ça, c'est intéressant sur la question de la question amoureuse. Et du coup, comme je voulais une différence, je me suis dit, tiens, bah, si, du coup, son cœur était une horloge. Du coup, l'amour et le temps seraient liés. Et à partir de ce truc-là, mais qu'est-ce qui fait que... Alors, je me suis inventé le personnage de Madeleine qui fabrique et tout, qui lui remplace. Et après, je me suis dit, il faudrait qu'il ait des... Il faut qu'il ait un chrono, comme on disait tout à l'heure. Un enjeu, qu'on appelle un enjeu. Que si jamais il tombe amoureux... Et là, j'ai trouvé mon livre. Par exemple, j'ai fait, OK, s'il tombe amoureux, il meurt, parce que c'est un bricolage. Là, j'avais tout. Après, il n'y a plus qu'à dérouler. Et le dérouler, c'est pas... Mais en tout cas, les instruments sont accordés. La palette est la bonne... Le casting est le bon, le truc est prêt à emporter. Après, il faut l'emporter quand même.
Oui.
Mais et donc, à partir de ça, j'ai commencé à écrire le livre et j'ai fait des recherches sur des horlogers de l'époque justement de Méliès et tout ça, des premiers qui fabriquaient des oiseaux chanteurs, des choses comme ça. Et j'ai trouvé un gars dans le Berry qui avait restauré des horloges de 1800, des trucs comme ça. Et je suis allé toute une nuit, je lui ai demandé, il m'a ouvert, et toute une nuit, j'ai enregistré des sons d'horloges. Je n'étais pas sûr de ce qu'on allait en faire. Et en fait, on a commencé avec Mike, qui est là avec moi ce soir sur scène, surtout lui qui a fait ça en termes de programmation, de faire en fait comme des samples, comme si on faisait de la musique électronique, mais au lieu d'avoir des éléments électroniques, on faisait qu'avec des coucous, des horloges, des trucs. Et ça, je me suis dit, putain, ce serait bien pour faire une chanson. Et de ça, j'ai eu envie de faire tout l'album. Et je me suis dit, on va faire la bande originale du livre comme si c'était un film. Et après, j'ai eu la chance que le film puisse se faire.
Ok. Ouais. C'est beau.
C'est très beau. Et bien, justement, du coup, là, t'expliquais un peu comment l'idée du film, etc. Et certains personnages, comment c'était, quelle allégorie, etc. On se demandait, est-ce qu'il y a une allégorie ou une idée derrière le personnage de Joe? Genre, est-ce qu'il représente quelque chose de bien précis ou...
Oui. Oui, en fait, pour moi, en fait, il est. En fait, c'est Jack. C'est-à-dire que c'est le... On a tous une mauvaise partie en nous. La question est de savoir si on la combat ou pas, ou si on la laisse aller. Et là, c'est comme si j'avais... même s'ils ne sont pas blancs et noirs, il y a du mauvais aussi en Jack et il y a du bon en Joe, comme dans le yin et le yang. J'ai quand même, pour m'amuser à la dramaturgie, mis plus de bon à Jack, avec un petit peu de sombre, et j'ai réduit la part bonne de Joe pour qu'il se laisse aller à ses pulsions plus binaires. Mais en fait, ils font un tout, tous les deux. Et on aurait pu raconter l'histoire du point de vue de Joe aussi. Et peut-être qu'on aurait dit, ce gars qui arrive là, alors que moi, j'ai le cœur brisé parce qu'elle s'est barrée, et qui vient, et finalement... Donc, il y a toujours cette possibilité. J'aime pas trop les méchants qui sont sans penser. C'est la même question que sur la pureté tout à l'heure. Expliquer ne veut pas dire excuser. C'est-à-dire que je déteste aussi le côté un peu science sociale. Ah ben lui, il a tué je sais pas quoi, mais franchement, à l'école, on se moquait de lui. Où il avait un milieu social difficile. Je dis pas qu'il faut pas le contextualiser, sinon j'enlève le contexte. Je dis juste que expliquer ne veut pas dire excuser. Mais par contre, je trouve que un méchant, même les plus grands méchants, doivent être explicables. Si c'est seulement des entités prétextes à créer du fight dans une histoire, alors ils sont carton et en fait ça me dérange moi dans les histoires. C'est le problème que je peux avoir avec certains blockbusters où le méchant n'a pas d'histoire, est juste méchant et il veut conquérir la planète et il veut taper tout le monde. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Alors qu'effectivement, le très bon exemple, en tant que fan de Star Wars, c'est très grec, hein, de toute façon. Mais la backstory de Dark Vador est géniale. Justement, cet enfant, ça explique son passage, mais ça ne pardonne en rien le fait qu'il soit devenu Dark Vador. Si on fait de la science sociale, on fait « Ah oui, mais petit, sa mère, elle est morte. C'est quand même normal qu'il déglingue tout le monde après. » Par contre, dire « C'est juste un méchant et ça ne nous intéresse pas », c'est toujours pareil. Donc, c'est là. Et Joe, j'ai essayé d'en faire un méchant qui soit ce gars qui n'a pas été... C'est une forme de manque de courage, finalement. Il manque de courage. Et à la fin, et finalement, c'est quelqu'un de pas si courageux. Et c'est une forme de bêtise. Mais j'essaie de ne pas complètement le juger. J'essaie de lui donner cette place-là. Mais encore une fois, ça aurait pu être une partie de Jack. Parce qu'il y a toujours des moments, où même quand on ne sera pas suffisamment courageux nous-mêmes. Donc on a cette partie-là. Mais, encore une fois, est-ce que ça fait système ou pas? Sur ce personnage, Joe, la dark side fait plus système.
Ok, trop intéressant, j'avais pas du tout lié le truc avec Jack.
Après, ce n'est que une. Là, c'est parce qu'on en parle.
Oui, ouais.
Mais c'est pas parce que tu n'as pas vu ça que tu n'as pas raison. C'est une interprétation.
Mm-hmm.
Okay. On le voit avec les textes, sans me comparer une seule seconde au texte sacré. mais on le voit, texte sacré, avec le même texte. Il y en a qui hébergent des gens et. Pour gratos, et d'autres qui les zigouillent avec le même texte. Il y en a qui vont donner leur chemise, et d'autres qui vont interdire à des femmes d'avorter. Donc, avec le même texte. Alors, bien sûr, on pourrait dire, ah ouais, mais là, il y a quand même de la merde. Et là, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et ce serait un débat intéressant. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que l'interprétation, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire... Ouais, mais ça, c'est ça. Les cathos, ils sont comme ça. Les musulmans, ils sont comme ça. Les athées, ils sont comme ça. Non, ils ne sont pas comme ça. Il y a un texte, il y a des interprétations, il y a des évolutions, il y a des croyances, il y a des choses, des gens qui ne croient pas. Et il y a une harmonie à trouver qui est très difficile. Mais tout ce qui crispe ça, c'est valable, pas seulement pour les religions, pour toutes les idéologies, c'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Le problème n'est pas le dogme. Le dogme, c'est un truc, on y croit, on n'y croit pas, on a envie d'adhérer, on n'a pas envie d'adhérer. Le dogmatisme, c'est de dire, non seulement tu vas adhérer, mais si jamais tu ne t'adhères pas, ben nous, on va te taper. On va te dégager ou on va te tuer. Et ça, c'est valable. Ouais, regardez, le nazisme, ce n'était pas une religion, et c'est la même chose. Les ismes, hein, c'est souvent problématique.
Est-ce que tu as prévu un autre long métrage ?
Alors oui, j'en ai prévu plein, mais malheureusement, c'est pas toujours facile à financer. Mais là, en tout cas, je suis sur un truc qui est en développement, comme on dit, ou qui est moitié live et moitié anime, avec un pays des reflets, d'un personnage imaginaire. En fait, ça s'appelle l'orphelinat des amis imaginaires oubliés. Et en fait, j'habite sur un bateau.
Ouais.
Prochaine fois, il faut interviewer des basketteurs comme ça. C'est l'heure de manger.
Ouais,
il nous reste une ou deux questions.
Pas de soucis, on fait rapidement qu'il ait le temps après.
Okay. Oui, ouais. Merci.
Qu'est-ce qu'on disait déjà ?
On est sur un bateau.
Sur un bateau.
Oui. Les pays des reflets. Je me suis aperçu en faisant des petites promenades de paddle le soir qu'en fait, quand la nuit tombait, tout se dédoublait. Comme tous des doubles, les reflets.
Ah oui.
Je me dis, ce serait marrant qu'il y ait un pays là, pas sous l'eau, mais juste en dédoublement. Et là, il y aurait tous les amis imaginaires oubliés. Tous ceux qu'on a oubliés, ils seraient là. Ils attendraient de pouvoir être réimaginés. Et du coup, il y aurait une petite fille qui n'est pas venue. Et c'est connecté à l'histoire de ce soir. Un enfant qui n'est pas né et qui, le jour où il devrait naître, arrive dans le réel, cette famille qui habite sur le bateau, c'est en live avec des comédiens, et elle arrive, elle est en animation. et elle veut devenir une vraie petite fille pour eux. Sauf que à l'âge adulte, elle s'aperçoit qu'elle a été seulement imaginée et il va falloir qu'elle retourne au pays imaginaire.
On doit spoiler là.
Non, pas complètement. Parce que et le pays des reflets est en anime. Et le reste est en live. Et le live est en noir et blanc. Je voudrais le filmer en péloche. Mais je sais qu'ils vont m'y aver pour ça. Et s'il faut, je me débrouillerai autrement pour me rapprocher au maximum. Et, l'animation est en animation couleur.
Trop bien.
Et à un moment donné, sans spoiler, où le réel va se colorer également. Voilà. L'orphelinat des amis imaginaires oubliés.
Ok.
Et on retrouve dedans... dans les personnages imaginaires, on retrouve Jack, on retrouve la sirène.
Oh oui, trop bien.
Il a un rôle important, Jack, en fait. Il va aider le personnage. Il y a un côté un peu petit prince à l'intérieur, où en fait il va dans plein d'endroits pour qu'elle comprenne justement qui elle est, mais pour qu'elle comprenne qui elle est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et eh ben que ce n'est pas ce qu'elle cherche, c'est le fait d'avoir fait ce chemin qui lui fait comprendre certaines choses, mais qui lui fait comprendre qu'elle est toujours en mouvement de toute façon, et que elle ne pourra jamais être ni une personnage imaginaire, parce que elle a été aimée si fort par ses parents qu'en fait elle est devenue réelle. C'est de ça dont on parle toute la journée quand on rêve, etc. Oui. L'art, c'est que ça.
Et du coup, il est en production là.
Début de production.
La date.
Ça fait parce que, comme je ne veux pas faire pour faire,
oui,
quand on dit oui, non, mais il faut faire qu'en anime, ou il faut faire, ah, mais non, mais il faut que machin, il faut que ça soit plus enfant. Donc là, l'histoire de la fausse couche, c'est pas enfant. Donc les enfants vont pas comprendre. Bon, je peux comprendre, hein, mais je fais pas du coup, parce que je pourrais faire un film plus léger sur d'autres choses, ça me plairait. Mais là, j'ai envie de faire comme ça. Ouvert aux critiques, bien sûr, pas en dire, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais par contre, j'ai une intention. Et ça, je veux pas... Je veux pas la...
Perdre
la rendre trop sucrée ou trop... Je veux pas.
Ok. Comment tu peux nous hyper pour ton nouveau spectacle de ce soir?
Eh ben, venez voir... un spectacle où c'est à la fois c'est un film sur scène. C'est comme si vous allez voir des personnages sortir d'un petit film en direct sur scène. C'est une comédie musicale de poche, miniature. Et en plus, il y a des chats.
Merci beaucoup.
Bah, c'était un plaisir.
C'était un plaisir.
Elle était super, votre interview. Et à tout à l'heure.
Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis vieux, que je perds mes cheveux. Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis gros, que je ronfle un peu trop. Mais tu m'aimeras quand même.
Je t'aimerai quand même.
Mais tu m'aimeras quand même.
Je t'aimerai quand même.
Mais tu m'aimeras quand même. Mais tu m'aimeras quand même.
Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis hors la loi, que j'ai pas de chez moi. Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que j'ai de la moustache. Je voulais pas que tu le saches.
Je t'aimerais quand même.
Mais tu m'aimeras quand même.
Je t'aimerais quand même.
Mais tu m'aimeras quand même. Tu m'aimeras quand même.
Pam, 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 pam. Ça m'aura quand même. quand même. Mais on s'aimera quand même. Mais on s'aimera quand même. On s'aimera quand même. On s'aimera quand même. On s'aimera quand même.
Is she wrong or is she right?
Je ne peux plus rien y faire, heureux.
Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright.
Je ne sais plus comment faire, heureux. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons.
Il parle d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons.
Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ses musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Comment faire heureux? Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise.
Comme un amour qui lâche prise, qui te casse et ne plie pas.
Tu lui ressembles quand elle tremble.
Et dans ta voix, j'entends parfois.
Ressemble quand elle tremble,
quand elle pleure, là dans le cœur, des arbres en fleurs.
Dites-lui que j'ai peur pour elle, dans le sous-sol quand il fait noir.
Quand j'en pensais une musique nouvelle, vous sont bien criés.
Et que si toutes les fleurs sont belles,
je me brûle souvent, souvent les doigts. Des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois.
Je ne sais plus.
De chagrin, de vent et de frissons.